Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie. C'est le dernier numéro de l'année 2025 pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël avant de basculer en 2026. Millésime qui s'annonce encore très prolifique sur le plan musical. Pour conclure cette année et inaugurer la suivante, j'ai la chance de pouvoir compter encore une fois sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi sommes en charmante compagnie aujourd'hui puisque nous recevons deux musiciennes, la violoniste Clara Danchin et la pianiste Anna Jbanova. Toutes deux enseignent leur instrument au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et elles forment également le duo Alma qui fait paraître son deuxième CD dans quelques semaines, le 23 janvier pour être précis. Il a pour titre Élévation et on y trouve des œuvres de trois compositrices dont nous allons parler en seconde partie d'émission avec nos deux invités. En attendant, place à l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation, d'autant plus que c'est une première à Mélomanie pour Clara Danchin et Anna Jbanova. Je suis très heureux de vous recevoir toutes les deux pour évoquer ce beau CD. Mais avant cela, nous allons donc revenir avec Serge sur des concerts ayant eu lieu récemment. Le premier, c'est celui qu'a donné l'ensemble le concert de l'Hôtel Dieu le 16 décembre en l'église Saint-Jérôme de Toulouse à l'invitation de la saison des Arts Renaissants. Il y avait aussi deux solistes présents à cette soirée, une soprano et un mandoliniste. Serge va nous rappeler de qui il s'agissait avant de nous faire part de ses impressions concernant ce concert dont le programme était sous-titré Noël napolitain.
Exactement. Et donc, il s'agissait d'une liste impressionnante de courtes pièces, d'origine, la plupart d'entre elles napolitaines, en tout cas italiennes. Et donc, les musiciens du concert de l'Hôtel Dieu, c'est un ensemble donc, qui est dirigé par son créateur Franck-Emmanuel Comte, qui en même temps joue du clavecin et dirige. Et c'est un très bel ensemble. Et il bénéficiait de deux solistes. L'un s'appelle Vincent Baird de Mander et il est mandoliniste. Et l'autre, c'était Heather Newhouse, une soprano qui nous vient du Canada. Et qui,
du Canada anglophone. Hein.
C'est ça, anglophone. Hein, son nom.
La trahit un peu, oui.
Voilà, exactement. Donc, c'était un programme vraiment très varié, alors qui s'ouvrait justement sur une création du mandoliniste Vincent Baird de Mander, une ouverture di Natale, qu'il avait italianisé, donc vraiment une ouverture très animée, et suivie par une pièce consistante qui était une cantate d'Alessandro Scarlatti avec une série de pièces récitatives, aria et pastorale qui s'achevait sur une belle pastorale et avec comme soliste donc Heather Newhouse qui a vraiment démontré à la fois la qualité de sa voix, une projection sonore impressionnante, hein, et donc une très belle voix, très nuancée, très, très musicale. Ensuite, il y avait quelques œuvres de compositeurs que, pour ma part, je découvrais.
Bon, je pense que la plupart d'entre nous les découvraient.
Cristoforo Caressana. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît ce monsieur. Moi, je l'avoue que je ne le connaissais pas. Et c'était des extraits d'une cantate qui s'appelle La Veglia, ce qui veut dire La Vieille, donc, avec quelques extraits chantés, évidemment, par Heather Newhouse. Puis, il y avait d'autres pièces d'Alessandro Scarlatti, avec une aria très émouvante, Lagrime amare, donc les larmes amères, extrait d'une cantate, là aussi. Puis un autre compositeur qui s'appelle Pietro Andrea Ziani, vraiment une belle pièce là aussi, très, très intéressante. Et puis quelques pièces d'anonymes, avec des pièces donc issues du grand répertoire populaire napolitain, une pièce une sorte de berceuse, et puis une autre, une tarentelle, qui contrastait beaucoup avec le calme de la berceuse. Et puis, encore un autre compositeur que j'ai découvert, Eduardo Mezzacapo, mais lui qui est du 19e siècle, avec des effets comiques tout à fait intéressants. Alors, la chanteuse, non seulement chantait en soliste au premier plan, mais même, quelquefois, elle se déplaçait au fond de l'église, et elle chantait du fond de l'église, ce qui donnait une atmosphère très particulière. Donc, ça a été un très beau concert, très animé et très vivant, avec notamment un grand succès, et donc un bis en forme là de tarentelle. Vous savez que la tarentelle, c'est cette danse qui soi-disant devait guérir des morsures de la tarentule. Il y avait ces effets comiques donc à plusieurs reprises. Donc vraiment un concert très vivant et très animé et qui a eu beaucoup de succès.
Oui, qui a beaucoup plu et vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, je voulais ajouter qu'il y a eu aussi une sonate Köchel 89 de Domenico Scarlatti.
Oui, il y avait le père et le fils.
Le père et le fils pour mandoline et continuo, et donc on a eu droit à la découverte de ce grand talent du mandoliniste qui démontrait une belle virtuosité et puis une belle musicalité. Donc il y a eu ça parmi les pièces chantées.
Voici un extrait de ce programme Noël napolitain donné par le concert de l'Hôtel Dieu mardi 16 décembre à l'église Saint-Jérôme. C'est une tarentelle napolitaine arrangée par Franck-Emmanuel Comte et elle a pour titre La Cicerenella. La Cicerenella, tarentelle napolitaine arrangée par Franck-Emmanuel Comte, extrait du programme Noël napolitain donné par le concert de l'Hôtel Dieu, la soprano Heather Newhouse et le mandoliniste Vincent Baird de Mandaire, le 16 décembre à l'église Saint-Jérôme. Prochain rendez-vous de la saison des Arts Renaissants, mardi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec les Capsper Girls. Nous allons vous le présenter tout à l'heure en seconde partie d'émission. Retour maintenant sur un autre concert de Noël, donné lui le 18 décembre à la Halle au Grain par le chœur Orpheon Donostiara, un ensemble connu de longue date à Toulouse. C'était un rendez-vous du cycle des grands interprètes, et vous y avez bien sûr assisté, Serge. Le programme était très varié et se déclinait en quatre parties distinctes, distinctes dans quatre langues différentes.
Exactement. Alors, il faut se souvenir que l'Orfeon Donostia est un ensemble qui est très lié à l'Orchestre National du Capitole. En particulier, c'était Michel Plasson qui avait fait venir ses chanteurs à l'époque où il était le directeur
musical. Il y a plus de 40 ans.
Oui, exactement. Donc, c'est un bel ensemble qui s'est retrouvé sur la scène de la Lograin avec un programme, donc, avec des chœurs de Noël, évidemment c'était d'actualité, d'origine d'abord anglaise, puis allemande, puis basque et puis française. Ils étaient tous accompagnés uniquement à l'orgue, un orgue tenu par Gérard Dorifon. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce bel équilibre entre les registres. Il n'y avait pas de domination entre les sopranos, les mezzos, les ténors, les basses. C'était vraiment...
Oh, c'est un chœur extraordinaire.
Ah, hein, c'est un chœur magnifique.
Un des meilleurs chœurs d'Europe.
Hein. Un chœur d'amateur, hein, a priori. Hein. Donc, d'amateur éclairé, évidemment.
Je
ne
sais pas si je veux dire semi-amateur, semi-professionnel, mais effectivement, leur métier.
Oui, c'est vraiment...
D'être chanteur.
C'est vraiment très, 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 très beau. Alors, l'épisode britannique mêlait quelques chants signés de grands compositeurs comme Handel, Irving Berlin et Félix Mendelssohn, qui lui pourtant n'a rien de britannique, mais il faisait partie de cet épisode avec vraiment un traditionnel aussi, qui était arrangé par David Wilcox. Alors l'étape suivante était allemande, avec quelques solistes d'ailleurs du chœur qui participaient, avec un ténor, une basse, des sopranos et mezzo qui intervenaient avec des pièces signées de Peter Cornelius, Michael Pretorius, celui qu'on connaît un peu mieux, Johann Herbeck, pas très connu évidemment, mais Franz Schubert.
Bon, lui, pas connu du tout.
Hein. oui, dont on a entendu son « Mille Cherubini in Coro ». Alors ça... réservé à un chœur de femmes d'ailleurs. Ensuite, l'ensemble retrouvait ses racines dans la série de chants basques qui occupait cette troisième partie et qui débutait par un traditionnel au titre vraiment impératif, Hator, Hator, qui veut dire viens, viens, et alors avec le grand chœur et un trio de chanteuses qui se séparaient du grand chœur, alternant avec d'autres chants traditionnels et quelques solistes, là aussi, dans la mezzo-soprano Annabelle Aldalo, le ténor Javier Puente, qui chantait en soliste dans certains épisodes. Et puis le concert s'achevait sur l'arrivée, en quelque sorte, du voyage, un épisode français avec des tubes très traditionnels, alors ça que l'on connaissait très bien, mais dont on a parfois découvert qu'ils ont été arrangés par des compositeurs. Moi, je n'étais pas au courant que, par exemple, Gabriel Fauré avait harmonisé Les Anges dans nos campagnes et Il est né le divin enfant. Et bien voilà, on a découvert la version de Fauré de ces deux chœurs. Et puis, il y a eu Minuit chrétien de Dolphador, ça, d'accord, oui. Mais arrangé quand même par Arthur Harris. Et on a découvert, pour la plupart d'entre nous, un extrait du trop rare Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns, qui n'est pas souvent donné. Hein, donc, Ton lit et Hostias s'appelait ce chœur, avec une participation soliste. À la fin, le chef du chœur, José Antonio Sainz Alfaro, donc, a proposé une expérience particulière. Il a demandé à l'ensemble du public d'entonner le célèbre chœur Adeste Fidele après une première exécution pour essayer d'entraîner le public. Je dois avouer que le public n'a que timidement essayé de se mesurer à l'exercice. Et donc, ça a été très discret de la part du public. Heureusement que l'Orfeon était là pour soutenir le chant et soutenir cet Adeste Fidele traditionnel, s'il en est français. Donc.
Et donc, parmi ces chants de Noël au programme du concert du 18 décembre, il y avait le très connu I'm Dreaming of a White Christmas d'Irving Berlin. On l'écoute tout de suite. Thank you. I'm Dreaming of a White Christmas d'Irving Berlin, interprété par le chœur Orpheum Donostiara, un des nombreux chants de Noël au programme du concert donné par l'ensemble basque espagnol le 18 décembre à la Halle au Grain. C'était dans le cadre de la saison des grands interprètes, dont le prochain rendez-vous est prévu lundi 12 janvier à la Halle au Grain, pour un concert où l'on va retrouver notre ami Thibaut Garcia, accompagné par l'Orchestre National de France. Fin de cette première partie d'émission, une petite virgule musicale. On revient dans quelques secondes avec Serge et nos deux invités du jour pour l'agenda de Mélomanie. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et nous commençons donc cette rubrique agenda avec nos invités, la violoniste Clara Danchin et la pianiste Anna Jbanova. Je rappelle que vous enseignez toutes les deux au CRR de Toulouse et que vous formez le duo Alma qui fait paraître son deuxième CD intitulé Élévation le 23 janvier. Trois compositrices sont à l'honneur sur ce disque et nous allons bien sûr en parler. Mais avant d'y venir, je voudrais que vous racontiez à nos auditeurs l'histoire du duo Alma. Comment est-il né et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ensemble ? Clara.
Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, comme vous l'avez dit, on enseigne toutes les deux au Conservatoire de Toulouse et en fait, nos classes de cours sont l'une à côté de l'autre. Donc, on a décidé en 2018 de faire jouer nos élèves ensemble et on a organisé une audition commune. Et pour faire une petite surprise à nos élèves, à la fin de l'audition, on avait choisi d'interpréter ensemble une mélodie de Tchaïkovski. Et là, ça a été comme une rencontre amoureuse. Ça a été un coup de cœur musical entre nous. Et de là est née l'envie de faire un duo ensemble et de jouer ensemble. La question s'est posée du répertoire, de quel répertoire on souhaitait proposer en concert. Et c'est là qu'Anna a eu la merveilleuse idée de cette sonate de Marguerite Canal.
Et donc c'est parti de là. Alors duo Alma, je suppose que c'est une référence à Alma Mahler. Donc c'était déjà sous les augures, la protection d'une compositrice que vous mettiez d'emblée.
Alors on n'a pas choisi le nom tout de suite. Je pense qu'on n'a pas eu de nom pour nos premiers concerts, mais c'est dès lors qu'on a proposé effectivement un concert autour des œuvres de compositrices qui nous a paru évident de faire porter le nom d'une d'entre elles dans notre nom de duo.
Anna.
Alors, notre duo, je pense que c'est une amitié qui est née il y a quelques années, une entente professionnelle et personnelle, et c'est un vrai bonheur de travailler ensemble avec Clara. Dès le premier instant, on s'est retrouvés à vibrer ensemble sous différents compositeurs, et vraiment compositrice, c'était une découverte de Marguerite Canal, une sonate qu'elle a écrite. Donc c'est une compositrice toulousaine de fin du 19e siècle, début 20e, donc c'est musique post-romantique, mais avec un langage très lyrique, très prenant, et c'est une sonate qu'on a enregistrée avec notre disque, dernier disque qui s'appelle Les Créatrices.
Vous parlez de votre répertoire, donc le répertoire c'est musique de chambre romantique et post-romantique. Vous êtes concentré là-dessus, en tout cas pour l'instant. Et il y a eu ce premier CD Créatrice en 2022, paru sous le label Clarté Records. On y trouvait déjà que des compositrices. On va peut-être rappeler lesquelles.
Donc il y avait la sonate, cette merveilleuse sonate de Marguerite Canal. On a également enregistré la sonate de Mel Bonis, qui est une très belle pièce, assez différente. Les trois romances de Clara Schumann, qui sont elles assez connues et qui sont rentrées quand même dans le répertoire souvent joué pour cette formation. Et puis il y avait aussi la romance de Amy Beach qui nous a fait découvrir cette compositrice américaine et qui nous a donné également envie d'en savoir un peu plus sur elle. Et c'est pour ça qu'ensuite on s'est orienté vers sa sonate pour le second album.
Alors il y avait quatre compositrices, donc la plus connue étant Clara Schumann, mais les autres, alors Mel Bonis, on commence à mieux la connaître depuis quelques années. Elle est quand même assez souvent jouée. Mais bon, les autres, il fallait les chercher quand même. Alors, est-ce qu'il y avait pour vous une prédilection pour des compositrices méconnues ou est-ce que c'était la volonté d'aller chercher des œuvres que personne ou presque ne jouait pour les mettre en valeur ?
C'est vraiment un choix, je pense, de musique tout d'abord, parce que c'est pas forcément les femmes compositrices. Deuxième album, on se disait, on a trouvé trois petites perles de Marguerite Canal qui n'étaient jamais encore enregistrées, ces trois petites pièces. Et autour de ça, on voulait prendre d'autres compositeurs, pas forcément compositrices. Et on a vraiment approfondi nos recherches. Et au fur et à mesure, on se disait, mais Amy Beach, qu'on a enregistrée dans le premier album, C'est merveilleux. On a retrouvé une sonate très, très intéressante, profonde et très riche, harmoniquement, émotionnellement. Donc, c'était notre deuxième choix de compositrice d'un deuxième album. Et puis, troisième compositrice, on a découvert en cherchant, c'est Irène Poldovsky. Donc, c'est une compositrice peu connue. Et si on raconte un petit peu l'histoire de sa vie, c'est
intéressant. On va le faire, hein, on va le faire dans quelques minutes, parce qu'on va regarder dans le détail hein, le programme de ce deuxième CD Élévation. Je reviens à Marguerite Canal, parce que vous l'avez précisé, née à Toulouse en 1890, rue des Lois, donc tout près de la place du Capitole, et morte en 1978, elle a une longue vie, hein, à CP, c'est aux petites communes au nord-est de Toulouse, prix de Rome en 1920, et là je me tourne vers Serge Chosy, comment se fait-il qu'elle soit si peu jouée, y compris dans sa ville natale?
Mais oui, c'est incroyable, tant plus que c'est de la belle musique, on ne comprend pas, donc bravo à toutes les deux d'avoir eu l'initiative de réhabiliter cette belle...
Espérons que ça va être joué de plus en plus grâce aux gens qui vont les découvrir.
En fait, sa sonate, vous l'avez enregistrée toutes les deux, mais je dois préciser qu'elle a été aussi enregistrée par Renaud Capuçon, accompagnée par son fidèle complice Guillaume Bellhomme au piano, et par deux Toulousains, Nathanaël Gouin et Guillaume Chilem, encore deux anciens du Conservatoire de Toulouse. Donc, elle est quand même jouée, quand même enregistrée, mais en dehors de cette sonate, le reste de son répertoire, à ma connaissance, personne ne le joue. C'est très, très étonnant. Créatrice, le programme Créatrice, vous l'aviez donné au Festival de Toulouse en 2022. C'était peut-être même votre premier concert avec ce programme ?
Alors, c'était en 2023. Non, c'était pas notre premier concert.
2023,
le premier concert autour de ce programme, c'était dans le cadre de la saison artistique du Conservatoire de Toulouse en 2019. Et en 2023, dans le cadre du Festival de Toulouse, on s'était associé à l'artiste plasticienne Sandrine Foller pour décloisonner les arts et faire un concert performance autour de ses œuvres de femmes.
On va donc se plonger dans quelques minutes dans le programme de votre nouveau CD Élévation. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, je propose d'écouter la pièce qui lui donne son nom. Voici Élévation de Marguerite Canal, jouée par le duo Alma.
Thank you.
Le duo allemand interprétait Élévation de Marguerite Canal, très jolie pièce qui donne donc son nom à votre nouveau CD à paraître le 23 janvier. Vous l'aimez décidément beaucoup, cette compositrice toulousaine trop méconnue. Quelles autres pièces de Marguerite Canal trouve-t-on aussi sur ce CD ?
Donc il y a trois pépites, Élévation, Lied, qui est un chant intérieur au violon, où le violon se transforme presque comme la voix humaine, et puis une pièce plus pastorale, qui s'appelle Idylle et qui est d'ailleurs le premier single issu du disque qu'on peut déjà retrouver sur toutes les plateformes.
Et c'est une musique vraiment, je sais pas, on en parlait avec Serge pendant qu'on l'écoutait, très française, typique de cette époque, foréenne pourrait-on dire.
Oui, très lyrique, très très beau.
Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Marguerite Canal, vous vouliez peut-être en parler.
Oui, on a travaillé avec la musicologue Pierrette Germain sur un livre qu'elle a rédigé, Marguerite Canal, la création entravée. Et du coup, elle a écrit sur cette compositrice en cédant des archives qu'on peut retrouver aux archives municipales de Toulouse.
Est-ce que vous avez rencontré des gens qui l'ont connue, puisqu'elle est morte en 1978? Est-ce qu'il y a des membres de sa famille encore ?
Alexis Galperine, qui nous a rédigé le livret de notre disque, a un souvenir un peu flou, enfant. Il l'avait croisé effectivement, je crois, dans un salon, et il n'a su que plus tard qu'en fait il avait rencontré Marguerite Canal.
Et ça, ce sont les hasards de la vie, et parfois on n'est pas conscient de la chance qu'on a de croiser certains personnages. Ce sont des choses qui arrivent. Alors on retrouve aussi sur ce CD, on en a déjà parlé, la compositrice américaine Amy Beach, déjà présente sur le CD Créatrice. Peut-être un mot de présentation d'abord la concernant, avant de nous en dire plus sur sa sonate pour violon et piano.
Alors c'est une compositrice qui était très très bien reçue par le public. Elle était très talentueuse pianiste.
Le public américain, vous
voulez
dire.
Pas que, après, européenne.
Au-delà des frontières américaines.
D'abord, elle a étudié à Boston et elle était très vite vraiment mise à l'honneur. Et même, c'est une première femme qui a composé une symphonie gaélique. C'était vraiment la première et ça a eu un grand succès. Après, elle a été aussi inspirée par la musique germanique, notamment, je pense, Brahms, parce que dans sa sonate, il y a toutes ces harmonies, toute cette forme qui était employée par les compositeurs germaniques. Même peut-être un petit peu de, moi, c'est personnel, hein, un petit peu de Wagner même, parce qu'elle emploie une forme de développement dans sa troisième mouvement de la sonate, où ça n'en finit pas, ça monte, et on ne sait pas où c'est la fin, c'est vraiment très intense en permanence, et c'est très belle écriture et grande profondeur.
Est-ce que sa musique est très construite ? Enfin, ses partitions, c'est une musique vraiment très écrite ?
Oui, c'est vraiment une musique qu'on peut qualifier de post-romantique et d'un romantisme tardif. En revanche, elle était effectivement très douée. C'était un enfant prodige. Il est dit d'elle que notamment elle était synesthète et qu'elle associait des tonalités à des couleurs. Donc elle avait sûrement un cerveau très riche et très prolifique et ça s'entend dans la richesse harmonique de ses œuvres. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, c'est un lyrisme très très poussé.
Je la resitue dans le temps, hein, pour ceux qui nous écoutent, donc née en 1867 et morte en 1944. Une phrase d'elle que j'ai trouvée, « Je n'ai jamais eu vraiment le droit de signer mes compositions à mon nom, donc je me devais de les signer au nom de mon mari. » Vous étiez au courant de cette anecdote ?
Ah ben, il y a beaucoup de femmes compositrices qui s'est cachées un petit peu derrière les noms de hommes, notamment aussi Mel Bonis.
Oui.
Exactement, et puis aussi Irène Poldovsky qui a pris le nom transformé de son mari. Donc je pense que c'était une époque où les femmes n'assumaient pas leur talent publiquement et elles étaient un petit peu obligées de passer derrière leur mari.
Nous allons écouter un extrait de votre enregistrement de la sonate pour violon et piano opus 34 d'Amy Beach. Il s'agit du début de son deuxième mouvement, Scherzo Presto. ¶¶ Le deuxième mouvement, Scherzo Presto, de la sonate pour violon et piano opus 34 d'Amy Beach, joué par le duo allemand, dont Clara Danchin me disait qu'il joue pas mal ce duo. C'était un autre extrait de votre CD Élévation, sur lequel nous pouvons aussi découvrir une seconde sonate pour violon et piano, composée par Irena Poldowski, une compositrice d'origine polonaise, comme son nom le laisse entendre, même s'il s'agit en fait d'un pseudonyme, comme nous le disait tout à l'heure Anna Manova. Comment vous pouvez la présenter à nos auditeurs en quelques mots, cette compositrice?
Alors, c'est une compositrice belge de naissance, mais ses origines sont polonaises parce que son père s'appelait Henry Wieniawski. C'est un très grand virtuose violoniste qui tout le monde connaît dans le monde de musique classique, romantique. Et donc ce grand compositeur, il est mort à Moscou quand Irène, sa fille, avait seulement 10 mois. Donc elle est née en Belgique parce que Wieniawski avait eu proposition d'avoir le poste de professeur de violon à Bruxelles. Donc, il a sûrement rencontré sa mère, et voilà. Donc, il y a une compositrice qui est née, et après, elle a vécu dans une bonne famille où il avait beaucoup de culture musicale et de mélomane. Elle a fait des études de musique, et puis elle est partie après à Londres pour épouser ainsi, je ne me souviens pas comment il s'appelle, non, mais à la fin de son nom, donc Paul. À la fin de ce nombreux titre de la noblesse, exactement. Et donc, elle a pris le pseudonyme Poldowski pour ne pas paraître aussi importante que son père, parce qu'elle ne voulait pas être connue grâce au nom de son père.
Elle
voulait
pas être une fille à papa, comme on dit en France.
Voilà, exactement. Et elle disait, je veux qu'on me connaisse individuellement et pas grâce au nom de mon père. Donc elle a changé son nom et elle a écrit beaucoup de œuvres, notamment beaucoup de mélodies.
Beaucoup de mélodies, oui, sur des poèmes de Paul Verlaine.
Exactement.
Encore un Paul, décidément.
Oui, sûrement, il y a quelque chose. Oui. Avec. Et donc sa sonate, c'est uniquement après avoir rentré de Londres. Elle a perdu son premier enfant en 1902, il me semble, et elle a écrit sa sonate avec beaucoup de choses qui reflétaient peut-être cette perte-là, parce qu'elle a d'une beauté et de profondeur incroyable.
Oui, alors les dates pour Irena Poldowski, c'est 1879 pour sa naissance, 1932 pour sa mort. Elle a étudié la composition à Paris avec Vincent d'Indy, donc influencée par la musique française de cette époque, notamment d'Indy qui a formé beaucoup de compositeurs à l'époque, beaucoup de musiciens. Lègue donc une vingtaine de mélodies sur des poèmes de Verlaine. Alors vous, Clara Danchin, qu'est-ce qui vous a plu dans la musique de cette compositrice?
C'est une musique qui effectivement s'inspire pas mal de l'impressionnisme. La particularité de son écriture, en tout cas dans la sonate pour violon, c'est que le violon est souvent dans les médiums. On joue beaucoup sur la corde ré, la corde la. Donc il y a une forme d'intensité assez intérieure, assez intériorisée dans le jeu du violon, qui contraste avec d'autres grandes sonates où il y a un lyrisme éclatant et assez évident avec des envolées lyriques sur la corde mi. Là, on est beaucoup dans les registres médiums, comme s'il y avait une douleur rentrée qui avait du mal à sortir, et parfois il y a au contraire des contrastes de nuances très surprenants. Et c'est une musique qui est très intéressante à jouer parce qu'à chercher les différentes couleurs dans les différents caractères qu'elle exprime, on trouve l'intensité émotionnelle dans ces changements assez abrupts de couleurs.
Nouvel extrait de votre CD Élévation avec le premier mouvement Andante Languido de la sonate pour violon et piano d'Irène Poldowski.
Thank you.
le premier mouvement Andante Languido de la sonate pour violon et piano d'Irena Poldovsky, un nouvel extrait du CD Élévation enregistré par le duo Alma. Je me posais une question en écoutant ces extraits. Qu'est-ce qui relie finalement ces trois compositrices entre elles? Parce que si vous avez mis sur un même CD, on peut penser que vous avez trouvé un lien, hormis le fait qu'elles sont toutes méconnues du grand public.
Peut-être que c'est la richesse émotionnelle intérieure qui les caractérise toutes les trois. Elles ont évolué à peu près aux mêmes époques, mais on sent beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Il y a quelque chose de très intime aussi dans certains passages de ses œuvres. C'est une musique qui émotionnellement est très riche et en tout cas nous a beaucoup touchés. Donc c'est d'abord le choix du cœur, c'est des pièces qu'on aime jouer en concert, qu'on aime défendre, qu'on aime présenter au public et on voulait un peu leur rendre justice en les posant sur un enregistrement.
Anna, vous êtes d'accord?
Oui, je voulais dire qu'ils sont aussi très passionnés, ces femmes, et en fait, leur passion se transmet dans les finales de ces deux sonates de Irène Poldovsky et de Amy Beach, parce que la profondeur, elle est vraiment évidente due à leur parcours, mais aussi, je pense que c'est comme si c'était des femmes tourmentées et émotionnellement cherchaient vraiment à s'exprimer à tout prix dans leur côté passion. On peut le retrouver dans les finales de ces deux sonates.
Nous avons commencé l'écoute de ce CD avec Marguerite Canal, mais je propose qu'on la conclue avec un nouvel extrait de ce CD Élévation et sa très jolie pièce Idylle, qui est donc aussi sur ce disque. La pièce est belle, mais encore faut-il la jouer avec la délicatesse et l'émotion qu'elle requiert, comme c'est le cas ici. C'était Idylle, composition de Marguerite Canal, qu'on trouve donc aussi sur le CD Élévation, que fait paraître le 23 janvier le duo Alma, formé par Clara Danchin et Anna Jbanova, dans 3 semaines donc, sous le label
Indécence.
Indécence, Calliope Records, c'est ça. Serge, il nous reste quelques concerts à annoncer avant la fin de cette émission et tout d'abord le traditionnel concert du Nouvel An de l'Orchestre National du Capitole à la Lograin. Comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, il y a 3 dates pour y assister. Mercredi 31 décembre à 20h, jeudi 1er janvier à 17h et vendredi 2 janvier à 20h. Qui et que va-t-on y entendre?
Eh bien, nous allons tout d'abord découvrir un chef invité, Enrico Onofri, qui est né en 1967 et qui est en même temps le violon solo d'Il Giardino Armonico depuis 1987.
Donc c'est sacré référence.
Chef et violoniste. Et il y aura une soliste qu'elle, on connaît déjà bien à Toulouse, c'est Shoban Stagg, qui est donc une soprano australienne qui avait participé à un concert donné par l'Orchestre National du Capitole en février de cette année avec du Mozart et du Strauss. Elle avait beaucoup, beaucoup plu à l'ensemble du public. Et là, pour ces trois concerts, le programme est un programme festif, évidemment, avec du Mozart, une marche, la marche numéro 1, donc, Köchel 335, et puis un air de concert de Mozart, Voyavete un col fedele. Et puis, la 40e symphonie, célèbre 40e symphonie de Mozart et de Rossini. Nous aurons l'aussi célèbre ouverture du Barbier de Séville. Et puis, un air de Sémiramide, Belraggio Lusinghier. Puis, l'ouverture de l'italienne Alger. Et l'ouverture de Guillaume Tell. Donc, vraiment, des œuvres
c'est
ultra
festif,
célèbres.
Oui, 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 c'est très festif tout ça.
Ah oui, oui, vraiment festif. Voilà donc le programme de ces trois concerts.
Les concerts du 1er et du 2, il resterait des places. Donc si vous en voulez, il faut vous précipiter. Le 31, je crois que c'est complet. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance de ces concerts du Nouvel An en écoutant un extrait de la célèbre ouverture du non moins célèbre Barbier de Séville, l'opéra de Rossini. L'ouverture du Barbier de Séville, l'opéra de Gioachino Rossini, une des pièces au programme des trois concerts du Nouvel An que donne l'Orchestre National du Capitole et la soprano Schoenstag sous la direction d'Enrico Onofri les mercredis 31 décembre à 20h, jeudi 1er janvier à 17h et vendredi 2 à 20h. Et puis enfin, dernier concert à vous annoncer, le prochain de la saison des Arts Renaissants qui a lieu le mardi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il est donné par une formation entièrement féminine au nom un peu difficile à prononcer, les Capsper Girls, Serge.
Exactement. Alors, un nom qui est une sorte de clin d'œil à l'un des plus fameux compositeurs italiens du début du XVIIe, Hieronymus Capsperger. Et on imagine bien que Capsperger sera au programme par plusieurs pièces, seront données par ces quatre jeunes filles qui sont Gabrielle Varbetian soprano, Axel Werner mezzo soprano, Garance Boiseau viol de gambe et Alban Hemps archilute guitare baroque. Et c'est elle qui dirige et qui est à l'origine de la formation de ce quatuor. Alors, le programme est un programme de très nombreuses courtes pièces avec du Capsperger, mais pas seulement. D'ailleurs, la première pièce qu'elles joueront, ce sera Kefaitu, Que fais-tu ? Et qui a donné le titre de ce programme, avec du Pasquini, du Barbara Strozzi,
une rare compositrice baroque.
Voilà, puis Giuseppe Colombi, une chaconne, Tarquinio Merula, qui est un peu plus connu, là, sur la Cetra Amorosa, ça c'est sur la lyre amoureuse, donc une pièce magnifique. Et puis de Santiago de Murcia, Canarios, ces pièces brillantes, très belles. Donc voilà ce programme très complet, très original, qui nous permettra de découvrir à la fois certains compositeurs et certaines pièces de compositeurs un peu moins inconnus, disons.
Nous allons pouvoir écouter les Capsper Girls pour conclure cette émission. Elles interprètent ici l'une des pièces de leur programme du mardi 6 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui est Si può fare, composée au XVIIe siècle par Barbara Strozzi. Si può fare, que pouvez-vous faire ? Superbe pièce de Barbara Strozzi, magnifiquement interprétée par les Capsper Girls. Elle devrait être au programme du concert qu'elle donne mardi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines dans le cadre de la saison des Arts Renaissants, pour laquelle la billetterie est en ligne à l'adresse www.art-renaissant.fr. Je rappelle d'autre part que la dernière représentation de Casse-Noisette, le ballet de Tchaïkovski, a lieu au Théâtre du Capitole ce mercredi 31 décembre à 20h. A priori, c'est complet, mais au cas où, vous pouvez tenter votre chance en vous connectant au site www.opera.toulouse.fr. Concernant les concerts du Nouvel An de l'Orchestre National du Capitole, avec la soprano Schoenstag sous la direction du chef italien Enrico Onofri, les mercredis 31 décembre à 20h, jeudi 1er janvier à 17h et vendredi 2 à 20h, les places sont à réserver et à acheter en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. onct.toulouse.fr. Et enfin, pour vous procurer le beau CD Élévation du duo Alma, à paraître le 23 janvier sous le label Indécence Calliope Records, je signale l'adresse du site internet de cette maison, www.indecencecalliope.com. Mais vous pouvez bien sûr aussi le commander en ligne, par exemple sur le site de la FNAC ou sur celui d'Amazon. Merci à Serge Chosy d'avoir co-animé cette émission avec moi, et merci à Clara Danchin et Anna Jbanova, le duo Alma, d'être venus nous présenter leur disque. Cette émission a été réalisée par Coraline Camebrac. Le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à tous ceux et celles qui étaient à l'écoute de Mélomanie aujourd'hui. Bonne fin d'année, bon réveillon. On se retrouve maintenant en 2026. Excellente semaine musicale à tous.